van des flammschen Lampen lag verschüssen en verdü. Flammsche Klanken, flammsche Sprache sind diep in uns Erdarlü. Nehme van des flammschen Lampen lag verschüssen en verdü. Flammsche Klanken, flammsche Sprache sind diep in uns Erdarlü. Overal vele honderd jaren klonk het Vlaams hier overal rond. Moeders klaften, bieten wiegen en de boeren op naar de grond. Neer me hond het Vlaams niet laten, land verschuizen. En verdu, Vlaamse klanken, Vlaamse sprake, zijn diep in ons hart daar u. Malle joes, in kerkenschool, leren nu, dan Frans was in. Neem me nu, in Vlaamse me klappen, mooi dren u basor zin. Neem me handes Vlaams niet laten, maar me klaat het voor dan ee. Zonder Vlaams, he Vlaamse lute, zonder Vlaams, he Vlaaming ee. Het Vlaams niet laten, land verschuizen en verdu. Vlaamse klanken, Vlaamse sprake, zijn diep in de zaterdagru.
Radio Uilenspiegel kan u beluisteren op 91.8, ook via internet www.uilenspiegel.eu. U beluistert de uitzending van Michiel de Zwakeling, Vlaanderen in Europa. En als beginlied hadden we, nee, we gaan het Vlaams niet laten. Dus, en daar staan wij allemaal achter. Vandaag is het 11 juli, Nationale Feestdag. Dus we staan even stil bij de huidige toestand van Frans-Vlaanderen. Dat betekent, hoe gaat het met de werkloosheid, onderwijshervorming, de economie. En op onderwijs wil ik even zeggen dat wij van de Michiel de Zwakeling, Euvo en Werkgroep de Nederlanden alle initiatieven steunen die kunnen bijdragen om de streektaal te bevorderen en in stand te houden. Maar onderwijstaal Nederlands. Daarover kan geen discussie bestaan. Zonder het Nederlands is er geen Vlaams meer. Dus wij moeten het Nederlands op de kaart krijgen in het onderwijs en enkel daardoor zal het Vlaams overleven.
Zodres die kosten zingen in onze talen. Nu zodres die kosten zingen in onze talen. Aan al de nekken die kloven was dat geschande. Ja, het moet als uitzien. Mijn zin en Vlaanderen. Ja, het moet als uitzien. Mijn zin en Vlaanderen. Op de rotte ook weer een keer naar mijn streken. Op de rotte ook weer een keer naar mijn streken. Kan die panelen niet noorden van mijn memorie. Ja, het moet als uitzien. Mijn zin en Vlaanderen. Ja, het moet als uitzien. Mijn zin en Vlaanderen. De Jean de Born à le ploufouren van Zeelanden. Ja, Jean de Born à le ploufouren van Zeelanden. Zie hier à Wescher, zie hier à Boer, oft wel à Dechter, jaat mona zeitzin. Zijn in Vlaanderen, jaat mona zeitzin. Zijn in Vlaanderen. Oui, mijn bron, mijn horizon, à mille handen. Oui, mijn bron, mijn horizon, à mille handen. Qual van je zingen, me lang, tot aan mijn handen. Ja, moda zijt zin, zin in Vlaanderen. Ja, moda zijt zin, zin in Vlaanderen. Wel van je zingen, mijn land, tot aan mijn einde. Ja, het moet er zijn, mijn zin in Vlaanderen. Ja, het moet er zijn, mijn zin in Vlaanderen.
Chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission préparée par le Cercle Michel de Zoan, Vlaanderen in Europa, une émission spéciale grâce à la direction de la radio qui nous a permis donc exceptionnellement pour cette fête de la communauté flamande. Merci Bruno, merci Monsieur Chidou pour nous avoir autorisé à diffuser donc une émission spéciale pour ce 11 juillet. Qui est donc la fête de la communauté flamande et de tous les amis de la Flandre, bien sûr. Le Cercle Michel de Zoan, ainsi que EVO et le Werkgroep Netherlands, bien sûr, mènent un combat depuis déjà de nombreuses années pour défendre l'étude du néerlandais, qui est aussi l'avenir pour bien des jeunes de chez nous qui vont retrouver, grâce à cette connaissance de cette langue, qui est aussi la langue de nos ancêtres, du travail, et aussi reprendre possession de leur culture. Naturellement, le West-Vlaamse n'a d'avenir que par l'enseignement du néerlandais, hein, puisque sans ça, il n'y a pas possibilité d'aller bien loin, malheureusement. Voilà, donc c'est en ouverture ce petit mot, chers auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute sur cette émission spéciale.
Beste luisteraars, vandaag hebben we een hele reeks gasten in onze studio. Ik ga beginnen, beleefdheidshalve dus, met de dames. We hebben Monique Matter, die uit de Elzas komt. Aan de techniek hebben we zoals altijd Marie-Jo Lieven. Dus die dat op een prachtige wijze doet. Dan hebben we verder, ook uit de Elzas, Frans Schaffner, Patrick Klein-Klaus. Dan wonende in Frans-Vlaanderen, Henry Vaassen en Karel Appelmans. En een echte Frans-Vlaming, Frederik Planken, die ook in onze studio is. Dus we gaan straks, Michel Lieven natuurlijk, de voorzitter van de Michiels Waagding, is ook aanwezig. We gaan vooral spreken over de toekomst van Frans-Vlaanderen, onderwijs, economie en wat erbij hoort. Dus zaken die ons moeten vooruit helpen om ons stukje Vlaanderen hier in Frankrijk te laten overleven. Dat is heel belangrijk.
Yo,
Radio Uilenspiegel, Stem van Vlaanderen op 91.8, ook via internet. Uitzending van de Michiel de Zwaagding, Vlaanderen in Europa. We hebben vandaag dus een hele reeks mensen te gast. En als eerste richt ik mij tot de heer Schaffner uit de Elsass. Donc, monsieur Schaffner, l'enseignement en Alsace bilingue, disons, est beaucoup plus loin que chez nous en Flandre, parce qu'ici c'est, disons, zéro. Nous n'avons pas d'enseignement, nous n'avons pas de classe bilingue. Comment l'enseignement bilingue a démarré en Alsace?
L'enseignement bilingue a démarré en Alsace il y a 24 ans, notamment en raison d'un certain nombre de pionniers, qui sont dont M. Patrick Lenclos, Patrick qui est là. Ça a commencé en 1991 avec 75 enfants sous forme de classes associatives. Et l'éducation nationale a été complètement surprise par cette manœuvre, puisque c'était officiellement des jardins d'enfants. Elle n'a embrayé qu'un an ou un an et demi après. Et ce qu'il faut dire, pourquoi est-ce que cet enseignement bilingue, c'est-à-dire français, allemand, langue régionale, pourquoi cet enseignement a débuté à ce moment-là, parce qu'on a compris, tout le monde avait compris que la situation s'était largement dégradée, que la situation était grave, qu'on ne parlait plus les variétés dialectales de l'allemand, que l'on n'apprenait plus très bien l'allemand sauf quelques heures, et qu'il fallait une autre dimension. Et cela a commencé donc beaucoup de bénévoles, avec de l'argent qu'on cherchait un peu partout. Et c'était les villes de Saverne, de Lutterbach et d'Ingersheim en Alsace, les unes dans le Oural, l'autre dans le Bas-Rhin, Saverne. Et la situation était tellement dégradée qu'on a fait une enquête par la suite, mais enfin là-bas c'était déjà le cas, c'est-à-dire de moins en moins d'enfants parlaient le dialecte parce que leurs parents déjà ne le parlaient plus. Et l'enseignement de l'allemand qui structurait ces variétés dialectales n'existait plus, ou très peu, depuis 1945. Donc il fallait un choc, il fallait quelque chose de neuf. Et comment est-ce que cela fonctionne, cet enseignement bilingue? Tout simplement, il faut commencer très tôt, dès la maternelle, même avant si c'était possible. il faut au moins la parité, c'est-à-dire 12 heures en français, 12 heures en allemand. Il faut la continuité, c'est-à-dire pour qu'il y ait un véritable bain linguistique. Et ce qu'il faut aussi, c'est que les enseignants, que ce soit un homme ou une institutrice ou une professeure des écoles, qu'elles y mettent du cœur, qu'elles y mettent quelque chose qui vient plus profond de leur être, pour transmettre quelque chose à ces enfants qui sont là, dont les parents sont de plus en plus nombreux à demander cette forme d'enseignement. Nous avions donc 75 enfants en 1991, 24 ans plus tard, il y en a à peu près 30 000. C'est à la fois dans le privé et c'est à la fois dans le public, classe associative, école catholique, voire des lycées ou des collèges protestants.
Ah oui.
Als ik dit even in het Nederlands mag samenvatten, meneer Schaffner die vertelt ons dat de situatie in de Elzas eigenlijk al een heel stuk beter is dan wat er op dit ogenblik in Noord-Frankrijk gebeurt. Reeds in 1994 is men daar gestart met een heuse opzet van tweetalig onderwijs voor de kinderen uit de Elzas. Dat is begonnen heel klein, met 75 leerlingen. Op dit ogenblik zijn er zomaar even 30.000 leerlingen die hiervan profiteren. Omdat men in de tijd had gemerkt dat het Duits en de Elzasser dialecten min of meer naar de achtergrond aan het verschuiven waren. En op dit ogenblik is de situatie dus heel anders, want zowel in het basisonderwijs als in het middelbaar onderwijs, zowel in het openbaar onderwijs, staatsscholen, als in katholieke, protestanten en andere privéscholen, wordt nu heel vaak tweetalig onderwijs gegeven. Dat wil zeggen, een helft van de uren in het Duits en de andere helft in het Frans. En meneer Schaffner die onderstreept dat dat eigenlijk de juiste methode is om opnieuw tweetaligheid te bereiken in een regio van Frankrijk.
Dit is weer lente, winter is voorbij. Still, yeah.
ik is het ook alleen. Ja, zoals die bloemen gaan ons allemaal heen. Zit ik soms 's avonds buiten op die stoel.
Radio Uilenspiegel, de stem van Vlaanderen. U kon zo net een heel mooi liedje horen van onze Afrikaanse taalgenoten. Dus het was een lievelingsliedje. Dus ik denk dat iedereen die het Nederlands beheert ook dit liedje begrepen heeft. Vous venez d'entendre une chanson en Afrikaans. Afrikaans qui est proche du néerlandais. Qui est donc de néerlandais. C'est une chanson d'amour, donc pour ceux qui ont compris, qui comprennent le néerlandais, donc je pense qu'ils ont tout compris. C'était vraiment ravissant. We gaan verder met het onderwijs in de Elzas, wat ons nou aan het hart ligt. Donc nous avons commencé avec M. Schaffner, l'origine de l'enseignement bilingue. La suite.
Alors, comme vous, les trois personnes qui sont d'origine alsacienne, qui sont autour de cette table, étaient parmi les acteurs de cette création. Notre but, évidemment, c'était d'enrayer la disparition de la langue, la disparition du dialecte, que les gens prennent, que les parents prennent d'autres habitudes et d'autres représentations mentales. François Schaffner a parlé de 30 000 élèves actuellement dans l'enseignement bilingue dans les deux départements. On peut être un petit peu plus précis, 25 000 dans le primaire, 5 000 en collège. On a près d'une cinquantaine de collèges qui ont des filières bilingues paritaires. Alors, pas toujours tout à fait paritaires, mais généralement, le minimum c'est actuellement de 9 heures et ça va jusqu'à 13, 14, 15, 16 heures en allemand, d'enseignement de l'allemand et de discipline. Et de discipline en allemand. C'est dans tous les systèmes d'enseignement. Donc, il y a des écoles associatives, ABCM Zweisprachigkeit. Il y a des établissements privés catholiques dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Il y a aussi, comme tu l'as dit, des établissements protestants, hein, et ceci concerne aussi les collèges. Pour vous donner une idée, dans l'enseignement privé catholique du Haut-Rhin, en maternelle, un enfant sur deux est en classe bilingue paritaire. Donc ce n'est pas rien. Alors ce faisant, la situation d'aujourd'hui n'est pas celle dont nous avions rêvé. Elle est extrêmement favorable si on compare à d'autres régions, la Moselle, la Flandre bien sûr, mais elle est très, comment dire, elle est insuffisante à nos yeux. Nous aurions voulu que tous les enfants d'Alsace puissent accéder dans leurs écoles ou à proximité immédiate quand on est dans le monde rural à une maternelle bilingue, paritaire. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup d'enfants, je dirais, doivent aller dans d'autres écoles. Les parents les conduire sur des fois 10, 15, 20, 30 kilomètres. C'est des déplacements énormes et très coûteux pour les parents. Nous ne sommes pas encore sur un pied d'égalité entre les classes monolingues et les classes bilingues paritaires. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est évidemment de permettre de reprendre la langue régionale, de lui donner une nouvelle place dans l'espace social, de permettre au dialecte d'avoir un nouveau départ à travers le Hochdeutsch, à travers l'allemand. C'est aussi, et c'est apparu de plus en plus au cours des dernières années, un problème économique. Un problème économique majeur. Premièrement, nos économies, notre industrie, notre tourisme est très largement tournée vers l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, les pays germaniques. Ils ont besoin d'avoir des personnes qui puissent communiquer avec les entreprises allemandes, les exploitants allemands, qui puissent, je dirais, exporter vers l'Allemagne. Et tout ça, nous sommes en train de le perdre. Donc ce sont des postes, des emplois qui en Alsace disparaissent, faute de connaissances de la langue. Beaucoup d'entreprises sont internationales, allemandes, autrichiennes, donc il faut pouvoir parler avec les maisons mères. On a aussi le problème du travail frontalier. Chez nous, c'était jusqu'à un moment 75 000 travailleurs frontaliers. Je crois que ce nombre doit être de l'ordre de 60 000 actuellement. Quelle est la raison principale? La raison principale, on nous a dit, c'est les qualifications. Ils n'ont plus besoin de ces personnels. On prend des personnels plus qualifiés. Non, la raison profonde, c'est la non-transmission de la langue. Alors, la non-transmission du dialecte, mais aussi, surtout, la non-transmission de la langue écrite. Pour pouvoir travailler dans un pays voisin, il faut avoir, je dirais, une maîtrise écrite et orale de la langue écrite.
Ja, we hebben dus nu geluisterd naar een tweede persoon die echt wel een van de hoofdactoren is van het tweetalig onderwijs in Elzas, Patrick Kleinklaus, die ons vertelt enerzijds dat er op dit ogenblik 50 colleges zijn in O en Baran, waar het tweetalig onderwijs echt wel actief wordt gegeven. En heeft er ook bij vermeld dat in katholieke scholen voor kleine kinderen 1 op de 2 scholen dit tweetalig onderwijs nog steeds actief organiseert. En toch zijn zij niet helemaal tevreden, want zij zouden graag hebben dat dat 100% geworden zou zijn. Wat moeten wij, Frans-Vlamingen, dan wel voor onszelf denken? Maar goed, we zijn dan overgestapt naar de economische beweegredenen waarom het zo noodzakelijk is dat je kort bij een grens ook de taal van de andere partner zou beheersen. En meneer Kleinkaus heeft onderstreept dat dat zowel mondeling als schriftelijk zou zijn. Hij heeft onder meer vermeld dat voor het toerisme heel wat Duitsers, Oostenrijkers, Zwitsers, Duitssprekende, naar de Elzas komen en die willen natuurlijk in het Duits worden aangesproken. Ten tweede, er zijn heel wat multinationals die aan beide kanten van de grens actief zijn. En het is evident dat wanneer je voor een Duitsstalige multinational werkt, dat je veel meer kansen maakt als je Duits ook machtig bent. En er was ook nog een derde argument. Er zijn ook 60.000 personen die vanuit de Elzas in Duitsland elke dag weer gaan werken. Hij heeft ons bijverteld dat er niet zo lang geleden nog 75.000 waren. Dus een achteruitgang van 75.000 naar 60.000. En dat komt volgens hem omdat steeds minder Elzassers het Duits echt wel beheersen.
Sluit jouw oogjes toe, vouw jouw handjes samen, doe doe baba doe, doe baba doe doe. Slaap kindje slaap nou, buiten klopt glas vaak. En jouw mama waak, waak, waak. Droom hartje, droom maar, dromen o zo teer. Daal dan uit de hemel van die lieve Heer. Doe, 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 doe. Doe.
Spiegel, Stem van Vlaanderen, kan u beluisteren op 91.8, ook via internet www.uilenspiegel.eu. U luistert aan de uitzending van de Michiel de Zwaankring, Vlaanderen in Europa. We hoorden zo net Patrick Lenklaus, die dus een overzicht gaf van de evolutie, ook door gebrek aan talenkennis, dat dus de jobs over de grens teruglopen, wat dus heel betreurenswaardig is. Et je dirai pour continuer que je donne maintenant la parole à Monique Matter.
Oui, je suis donc présidente du comité fédéral pour la langue régionale en Alsace et en Moselle germanophone. On m'a sollicité pour ce poste à la suite du... de la démission de notre président qui est devenu en fait président du conseil départemental du Haut-Rhin. Et en fait, notre association regroupe une quinzaine d'associations alsaciennes et mosellanes. Les Mosellans partagent avec nous la même langue régionale, à savoir les dialectes alémanique et francique et l'allemand standard. Leur forme, c'est la forme écrite de le Hochdeutsch de nos dialectes. Quels sont les objectifs de notre fédération? Nous tenons effectivement à créer à nouveau une Alsace bilingue, à retrouver cette Alsace bilingue dont ont profité les générations pendant de nombreuses des siècles. Et nous souhaitons effectivement le donner aussi, donner cette possibilité à nos enfants et aux nouvelles générations. Alors, la situation étant très dégradée, et c'est sur cette situation-là que nous avons donc réfléchi et proposé l'enseignement bilingue à l'éducation nationale, qui dans un premier temps a bien sûr refusé de le mettre en place. Et ce qui a déjà été dit, c'est que c'est en associatif que nous avons réussi à faire démarrer cet enseignement. Alors l'objectif de notre fédération, c'est d'abord et en priorité donc développer l'enseignement bilingue paritaire. Nous souhaitons particulièrement informer les parents, c'est ce que nous faisons régulièrement. Nous souhaitons aussi leur procurer un soutien juridique en cas de refus de l'administration d'ouvrir des classes bilingues, parce que nous le savons, la demande est très forte en Alsace et le blocage de l'éducation nationale est extrêmement, est parfois très fort. Une autre partie de notre travail consiste à faire des propositions pour une politique linguistique cohérente pour la région. Donc voilà, c'est ce que je voulais dans un premier temps vous communiquer.
Mevrouw Monique Matter heeft ons uitgelegd dat zij op dit ogenblik de voorzitter is van een vereniging met officieel karakter die tot eerste objectief heeft van Elzas opnieuw een tweetalige streek te maken. Het gaat dus om de promotie van niet alleen het Duits, maar ook de regionale varianten en zelfs de dialecten uit Alsace en ook de Moezelstreek. Zij zegt dat dit dus inderdaad al een hele tijd bezig is. Ooit werd gezegd vanaf na de Tweede Wereldoorlog, maar... De initiatieven zijn uitgegaan van deze vereniging, want men heeft getracht te spelen via het ministerie van Onderwijs, maar het Franse ministerie van Onderwijs is hier niet altijd happig om. Er moest dus eerst een voorbeeld gegeven worden van een gelukt project, om dan achteraf met heel veel lobbywerk ook het officiële staatsonderwijs, het ministerie van opvoeding, hiervoor inderdaad ook in te spannen. Het gaat dus werkelijk om het uitdenken van een taalpolitiek voor deze regio.
Het was lang geleden op de Noordzee. Daar voer een schip met de wind mee. Mist op de golven. Het was een koude dag. Op het dek vijf mannen met hun drankgelag. Vier met een fles en één met een gitaar. Een schone melodie, geen besef van gevaar. Het was lang geleden op de Noordzee. Daar voer een schip op de golven mee. De dag was gevlucht voor de dreigende nacht. Daar verscheen de storm zo onverwacht. De wind waaide hard door hun baard en hun haren. Ze bleven luisteren naar de zingende snaren. Het was lang geleden op de Noordzee. Daar voer een schip met de storm mee. Vijf stoere mannen. Met angst in hun ogen. Werden naar de kelders van de zee toegezogen. De maan was getuige van hoe het schip zonk en hoe voor het laatst de mee. Melodie klonk. Maar soms als het stormt, bij het avondgloren. Kun je op zee de melodie nog horen?
Radio Uilenspiegel, de stem van Vlaanderen, 91.8, ook via internet www.uilenspiegel.eu. U luistert naar de uitzending van de Michiel de Zwaankring, Vlaanderen in Europa. Dus zoals ik zei, we hebben dus vandaag een heleboel gasten in onze studio. En ik ga nu het woord verlenen aan Frederik Planke, een geboren en getogen Frans-Vlaming, geboren, als ik het goed voor heb, in Duinkerke en op dit ogenblik woonachtig in Steenvoorde. En mijn vraag aan Frederik is, hoe ziet u de evolutie van Frans-Vlaanderen in je jeugd en nadien? Gaat het toch uw richting uit, Frederik?
Ja, goedemiddag. Ce que j'aimerais surtout faire... Alors déjà, je vois ma... Comment?
Le micro ne marche pas.
Bon alors, petit problème technique, c'est-à-dire que mon micro ne fonctionnait pas, je viens de l'apprendre, alors même que le signal on-air était bien allumé. Hein. Voilà. Non, ça va, je n'ai pas besoin de retour, c'est bon. Simplement pour compléter ce qu'a dit Carole, donc effectivement, j'ai des souvenirs d'enfance sur Dunkerque, qui est un cas un peu particulier par rapport aux Flamands, parce que c'est une ville qui a été très tôt francisée, mais dans laquelle est toujours restée quand même... Une base absolument flamande. Ça se sent encore aujourd'hui, même dans les gens de carnaval, des choses comme ça, etc. Donc la base est là. Une ville un peu particulière, puisqu'elle a également aussi appartenu un peu à l'Angleterre, etc. Bon, elle a changé plusieurs fois de citoyenneté, parfois même à très peu de temps d'intervalle. Bon, donc une ville un peu particulière, mais bien en Flandre. Ce que j'aimerais plutôt dire, c'est comment la situation chez nous a évolué à partir des années 80, par exemple, hein, puisque j'ai un âge qui fait que j'ai connu cette époque. J'ai fait partie des tout premiers de la Radio Olympique. Je me souviens de Pascal Van Bommel, je me souviens de programmes avec Régis de Mol, Jumeau Laubert, etc. Bien. Alors, comment était la situation il y a une trentaine d'années? 35 ans, je pense que paradoxalement, elle était meilleure. Il y avait au niveau de l'intentionnalité, au niveau, je ne sais pas comment on dit en français, vous voyez, ça m'arrive dans ce sens-là aussi, inzet, hein, qu'est-ce que
la
c'est
motivation.
Motivation, aussi, merci. Par exemple, il y avait des universités d'été à Hasbrouck où il y avait 400, 500 participants. Je crois que le plus a été une fois 600. Il y avait énormément d'engouement. Voilà, ça c'est peut-être un mot français qui irait bien pour la cause flamande. Et puis alors, très rapidement, le sujet a été empoisonné, si j'ose dire, par la rivalité, n'est-ce pas, de la dualité Vlaamsch, donc le dialecte, et la langue écrite, la langue standard de référence, langue littéraire, le Nederlands, que d'ailleurs... On aurait pu continuer d'appeler le Niederdeutsch. Personnellement, ça m'aurait plu parce que ça montrait bien l'appartenance familiale à, n'est-ce pas, les langues germaniques. Voilà. Alors, c'est plutôt de ça dont j'aimerais parler parce que je crois qu'il y a des enseignements à en tirer et puis aussi parce que je crois que cette problématique revient énormément d'actualité. Voilà. Je crois qu'il faut... Moet een samenvatting maken. Oké.
Ja. De vierde persoon aan tafel is een echte Frans-Vlaming. Hij is geboren in Duinkerke en woont op dit ogenblik in Steenvoorde. We zijn op dit ogenblik samen in Kassel. Dus dit is zowat het gebied van, laten we zeggen, 35 kilometer breedte, net onder de grens met Belgisch Vlaanderen. En Frederik Planke die vertelt ons dat toen Radio Uilenspiegel begon met zijn uitzendingen en toen hij begon met zijn acties voor het Vlaams in deze regio, de situatie was toen eigenlijk beter dan vandaag. En dat zegt hij met volle overtuiging. Wij vinden dat een beetje spijtig, maar het is inderdaad zo. Toen waren er bijvoorbeeld ook zomeruniversiteiten die helemaal gewijd waren aan het aanleren en het spreken over het bestuderen van het Vlaams. En daar is het misschien een beetje fout gelopen. Vanaf een bepaald ogenblik zou er te veel rivaliteit geweest zijn tussen diegenen die het Vlaams, dat is het dialect of de streektaal die hier wordt gesproken, gingen als een concurrent zien van het standaard Nederlands, van de, tussen aanhalingstekens, cultuurtaal, die meneer Planke eigenlijk nog liever Nederduits zou blijven bestempelen. Maar het gevolg is inderdaad dat eigenlijk het Vlaams steeds minder actief gebruikt wordt in deze regio.
En hoor jij die mannelijke leuning, hoor die welkom en blijd gezien. Die lied van de volkse ontwaking, wat harten laat zitteren weer.
Radio Arjen Spiegel, hier zijn we terug met de uitzending van de Michiel de Zwaankring, Vlaanderen in Europa. Dus we hebben een heleboel interessante gasten rond de tafel hier, dus we gaan nu verder met Frederik, die nog eventjes voortgaat over zijn belevenis in zijn Frans-Vlaanderen.
Oui, donc je continue hein, ce qui était en cours, c'est-à-dire que nous en étions restés au renouveau de l'intérêt pour la culture flamande dans les années 80, on va dire, et que assez rapidement le mouvement s'est divisé en deux, n'est-ce pas, les personnes qui étaient pour la ce qui s'appelait langue locale, plus tard on appellera langue régionale, mais là il y a une ambiguïté. Et puis ceux qui étaient pour la langue littéraire, hein, la langue écrite. Il faut à ce niveau-là remarquer, enfin je remarque personnellement, que chez les partisans purs et durs du dialecte, ceux-ci ne font pas du tout la distinction classique hein, du professeur Tonis entre langue de communion et langue de communication. Et le dialecte, c'est une langue de communion. C'est une langue, entre guillemets, de fermeture. Et c'est exprès, et c'est prévu pour ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que quand les gens veulent se retrouver entre eux, et même éventuellement que des étrangers, entre guillemets, ne puissent pas les comprendre, alors ils se replient sur leur dialecte, qui, entre parenthèses, n'a pas que des inconvénients. C'est absolument, en général... une langue intéressante, un niveau de langue intéressant parce qu'il y a des archaïsmes, parce qu'il y a des tournures savoureuses, des choses comme ça, etc. Mais c'est une langue de communion, c'est une langue, c'est la langue des paysans et la langue des artisans, les gens du peuple. Ça n'est pas une langue théoriquement intellectuelle. Alors on pourra dire que on peut utiliser le dialecte pour dire des choses. Quand même, ça va dépendre qui l'utilise, n'est-ce pas ? C'est un problème d'instrument. Mais on ne peut pas, pareil, ça ne présente aucun sens de traduire le discours de la méthode de Descartes en Vlaamsche. Ça n'a pas de sens. Aller passer son permis de conduire en Vlaamsche, c'est bizarre. Vous voyez, des choses comme ça. Des textes considérés comme plutôt littéraires, ils doivent rester dans leur domaine littéraire. Et donc la distinction du professeur Tonis était très claire. La langue locale, le niveau de langue locale, c'est le dialecte, mais dès qu'on cherche à dépasser son petit pays, à s'ouvrir à l'extérieur, à vouloir par exemple aller étudier de l'autre côté de la frontière ou accomplir des opérations commerciales à plus grande distance, à ce moment-là, il faut passer à la langue de communication, qui est donc le néerlandais standard. Et c'est très dommage que notre mouvement soit fort marqué par cette opposition, surtout que cette opposition se double, je terminerai par là, se double d'un aspect politique, c'est-à-dire que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir eh bien, favorisent absolument le dialecte, parce qu'ils savent très bien que c'est juste bon pour... localement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la réserve d'Indien, et ils savent qu'ils ne courent pas de danger avec ça au niveau européen. Tandis que si on favorise la langue littéraire, directement on est au niveau européen. Et je trouve que c'est donc dommage de vivre ça. C'est surtout dommage parce que le dialecte, c'est quand même quelque chose qui d'abord est avant tout oral. Alors comme c'est une langue de communion, on peut à la rigueur écrire des petites comptines, ça peut servir à l'enseignement maternel, des choses comme ça. Mais dès qu'on passe à un enseignement plus abstrait, nous sommes obligés de passer à la langue littéraire. Et c'est très dommage de voir qu'on commence à mettre par chez nous des noms de rues, des choses comme ça. Sous forme dialectale qui bien évidemment n'est pas unifiée, c'est-à-dire que n'importe qui peut décréter que le Vlaamsche s'écrit comme cela. Alors il y a eu plusieurs études, n'est-ce pas ? J'ai encore connu le temps de Jean-Paul Sopiter qui a fait une méthode dans les années 70. J'ai connu Kunsch, Piet van de Voort qui est venu à la maison pour aussi mettre au point une méthode de Vlaamsche et tout. En général, ils n'ont pas insisté parce qu'ils ont vu au bout d'un moment que ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne uniquement pour la communion, pour la vie au village, au niveau du canton. Mais ça, dès qu'on va plus loin, ça ne fonctionne plus parce que les dialectes sont tous différents. Ils sont tous semblables dans la même grande famille, mais ils sont différents. Alors voilà, donc c'est ce sur quoi j'aurais aimé que nous parlions, et en particulier que les collègues d'Alsace s'expriment là-dessus, parce que et là c'est vraiment ma fin. J'ai eu, en Alsace pas tellement, mais j'ai eu un petit problème avec des gens de la Moselle qui parlaient l'Autringer Platt, et qui en venaient à dire qu'ils étaient très très anti-allemand littéraire, et ils disaient, la langue régionale c'est le Platt, n'est-ce pas, Platt Deutsch, et c'est une variante du français. Alors voilà où l'esprit jacobin nous mène, c'est-à-dire que on admet une langue régionale seulement si c'est une variante du français. Et on ira jusqu'à dire qu'une langue germanique, on dira peut-être la même chose.